Donc, il n'y a pas vraiment d'augmentation des risques cardiovasculaires, etc., comme on l'a cru longtemps, dans le fait de manger plus de graisse. Il y a une étude là de 60 millions de consommateurs où ils ont testé une trentaine de références de grandes surfaces, dont la moitié était bio. Déjà, elles étaient toutes polluées en microplastique. Enfin, la teneur en polyphénol d'une huile de grande surface, qu'elle soit bio ou non, est à peu près de 100-150 mg par kilo. Et à titre de comparaison, celles qui sont utilisées dans les études qui vantent les vertus de l'huile d'olive, dépasse en général les 400 mg par kilo.
Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On voudrait remercier notre partenaire Féroce. Saviez-vous que notre alimentation moderne est jusqu'à 4 fois moins nutritive que celle de nos ancêtres? Pourtant, le foie de bœuf est l'un des aliments les plus riches de la planète. Seulement 7 grammes suffisent à couvrir une grande partie de nos besoins en vitamines et minéraux. Le problème, nous avons perdu l'habitude d'en consommer. C'est là que Féroce intervient avec son haché révolutionnaire. Un mélange savoureux de 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et 20% d'abats. Pas de compromis sur la qualité, chaque lot est testé en laboratoire pour garantir sa richesse en micronutriments et oméga-3, tout en restant exempt de polluants comme les métaux lourds ou pesticides. Ça régale. Dans le cadre de notre partenariat, la marque offre aux auditeurs 4 steaks 3 étoiles avec votre première commande de haché Féroce. Pour en profiter, il suffit de l'ajouter à votre panier et d'utiliser le code 1000% sur la page de paiement. Lien et code en description.
Et salut tout le monde, on est très content de faire cet épisode aujourd'hui avec David Nicolas, le retour. Comment tu vas?
En pleine forme, comme toujours, et toi?
Bah super, aujourd'hui on va parler des huiles, on va essayer de faire le tour de ce que tu proposes aussi avec ta marque Féroce. Et on est accompagné de Pierre de 1000%, comment ça va?
Ça va, nickel. Salut à tous les deux. Ben forcément, ravi de pouvoir réinviter David pour un nouvel épisode, pour qu'il nous présente sa marque, qui nous accompagne, qui accompagne le projet. Je pense que ça aura échappé à personne. Et parler de qualité, c'est ça le maître mot, David, non?
Ouais. D'ailleurs, on a une devise chez Féroce, c'est l'excellence sinon rien.
Voilà, c'est parfait. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nos auditeurs qui nous accompagnent de faire cet épisode avec les marques à 1000% qu'on décide pour notre accompagnement, pour que la marque grandisse aussi. Et aujourd'hui, on va faire le point sur un produit qui a été un deuxième G pour toi. Tu vas expliquer un petit peu ta marque Féroce qui a démarré avec les steaks enrichis nutritionnellement. On a déjà fait un épisode, hein, si jamais vous n'avez pas vu cet épisode, je pense que c'est super intéressant. C'était une mine d'or d'informations sur ton projet et sur ta vision de la santé et de l'alimentation. Et aujourd'hui, on va parler du gras. Je te laisse introduire un petit peu cette nouvelle carte à Féroce.
C'est amusant parce que tu parles de nouvelle carte, alors qu'en réalité, c'est un acide gras qui a toujours fait partie de l'histoire de l'évolution humaine. C'est-à-dire que depuis 300 000 ans, notre source de graisse principale, c'était de la graisse animale. On n'avait pas encore inventé les huiles de graines, tous ces procédés industriels qui nous permettaient d'extraire justement de l'huile de colza, de tournesol, etc. Il y a effectivement l'huile d'olive qui est déjà un peu plus ancienne, mais bien avant l'huile d'olive, notre principale source de graisse et d'ailleurs de calories, c'était les graisses animales. Et donc nous, dans cette volonté de valoriser vraiment chaque partie de la vache, eh bien, on récupère ce qu'on appelle le gras d'œillet. C'est du gras qui est au centre de l'entrecôte, qui est très tendre, très crémeux, etc. Et donc, on le fait fondre dans des marmites, mais à basse température, pour vraiment conserver toutes les vitamines, tous les composés positifs, etc., qu'on peut trouver dedans. Et ensuite, on conditionne en pot, et ça fait vraiment une alternative au beurre ou au ghee. Tu vois, le ghee, il est souvent dans un petit pot en verre, comme ça, tu l'ouvres, il est très crémeux. Et tu peux en mettre sur ton pain, tu peux en mettre pour la cuisson, l'utiliser dans des pâtisseries ou pour assaisonner des légumes. Et donc c'est vraiment extrêmement polyvalent. D'ailleurs, pour le suif, on peut même l'utiliser pour la peau de façon cosmétique. C'est une utilisation que j'avais pas anticipée au départ et que j'ai découvert en m'intéressant au sujet. Alors moi normalement je mets rien sur ma peau, puis je me suis amusé à en mettre un petit peu, et puis là ma femme m'a dit Mais qu'est-ce que t'as mis? Ta peau est toute douce. Et donc, elle a commencé à en mettre aussi. Et maintenant, elle en met même à mes filles, et notamment ma petite qui a 2 ans. Elle a eu à un moment des petits problèmes de peau. Enfin, je sais pas si on peut vraiment parler de problèmes, mais des espèces de plaques rouges qui étaient venues. et on a testé deux trois crèmes, tu vois, dermatologiques qu'on vend dans les pharmacies, et ça a eu aucun effet. Et on a mis du suif et ça a complètement fait disparaître ces plaques. Alors bon, là évidemment, on peut pas extrapoler ça comme étant une étude très très scientifiquement valide. C'est juste une anecdote, mais je pense que c'est intéressant. Et la raison pour laquelle le suif est si bien adapté à l'usage cosmétique, c'est qu'il a un profil d'acide gras qui est semblable au sébum de la peau. Donc, ça fait qu'il est très, très bien toléré. Et comme il y a des composés antioxydants et anti-inflammatoires à l'intérieur, et bien voilà, il participe vraiment à cet équilibre du microbiote cutané. Voilà pour la petite intro.
Bah ouais, non, mais c'est parfait.
Je vais juste rebondir sur quelque chose. Tu parlais du ghee. Est-ce que tu pourrais nous définir pour les auditeurs qu'est-ce que c'est et l'intérêt que ça peut avoir en cuisine notamment?
Alors le ghee, moi personnellement, je n'utilise pas, donc je ne suis pas un grand expert du sujet, mais c'est du beurre clarifié. Donc je ne connais pas exactement le procédé par lequel on l'obtient, mais je crois qu'on le fait chauffer et donc ça permet de séparer certains corps gras pour enlever tout ce qui est lactose.
Donc c'est une version du... et caséine.
Ça enlève les protéines qui peuvent, tu vois, être voilà. La réaction meilleure à la cuisson. Mais écoute, tu pars sur le suif. Explorons. Comment tu t'es dit que t'allais exploiter le suif? C'est quoi l'histoire?
Bah, tu vois, comme je te disais, moi, ma volonté, c'est d'honorer vraiment le sacrifice des animaux, entre guillemets, en valorisant chaque morceau. Je pense qu'ils ont tous un intérêt dans une alimentation humaine équilibrée et puis brute, vivante, et voilà. Et puis quand je vais commencer à creuser le sujet, bah, en fait, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses hyper intéressantes. Déjà, tu vois, on a tendance à penser que les graisses animales, c'est que des graisses saturées. En réalité, c'est pas le cas, tu vois. Dans le suif, par exemple, t'as 40% d'acide oléique. Et l'acide oléique, c'est exactement le même que celui qu'on trouve dans l'huile d'olive. Donc déjà, ça change un petit peu le paradigme dans lequel on est généralement. On fait des raccourcis, puis on se dit, voilà, les graisses animales, c'est des graisses saturées, c'est pas bien, etc. D'ailleurs, sur cette notion de c'est pas bien, on sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études récentes qui montrent que le cholestérol et les graisses saturées, enfin que les graisses saturées augmentent pas le cholestérol sanguin. La production du cholestérol, elle est surtout endogène, donc c'est le corps qui le produit lui-même et il adapte sa production en fonction des apports alimentaires. Donc il n'y a pas vraiment d'augmentation des risques cardiovasculaires, etc., comme on l'a cru longtemps dans le fait de manger plus de graisse. D'ailleurs, tu vois, vis-à-vis des risques cardiovasculaires, en réalité, on sait aujourd'hui que, tu vois, on a souvent incriminé les LDL, donc c'est ce qu'on appelle généralement le mauvais cholestérol. Et en réalité, le fonctionnement physiologique derrière ça, c'est que quand tu manges des glucides, par exemple, ça va augmenter ta glycémie sanguine. Donc le corps, il va sécréter de l'insuline pour traiter cette glycémie, parce que il faut que le taux de sucre dans le sang, il reste toujours dans un seuil homéostasique, tu vois. Et il faut pas qu'il dépasse. S'il y en a trop, eh bien, ça devient du poison. Et s'il y en a pas assez, d'ailleurs, c'est un problème aussi. Et donc, il va sécréter de l'insuline, qui va faire rentrer ce sucre d'abord dans les cellules musculaires, ensuite dans les cellules hépatiques, sous forme de glycogène, dans les deux cas. Puis s'il reste encore des glucides, eh bien, il va les transporter dans les cellules adipeuses. Et en fait, pour transporter ce glycogène dans les cellules adipeuses, sous forme de triglycérides, eh bien, il va utiliser des petites navettes. Et ces petites navettes, en fait, qui sont les LDL. Et donc, en fait, l'augmentation des LDL, qui est effectivement associée à des risques cardiovasculaires, il n'est pas tant lié à la consommation de cholestérol. On a fait un raccourci parce que les LDL, ces petites navettes, elles sont faites à base de cholestérol. Mais en réalité, c'est des transporteurs des triglycérides qui viennent surtout de l'élévation de la glycémie sanguine. Or, quand tu manges du gras, de façon générale, ou des protéines, tu n'augmentes pas la glycémie sanguine. Donc, les publications récentes, elles montrent que ce qu'on a souvent incriminé comme étant potentiellement à risque pour les maladies cardiovasculaires, que ce soit la viande ou les graisses saturées, bah, en réalité, c'était pas vraiment ça qui posait problème, mais plutôt le pain qu'il y avait autour quand on mangeait des hot dogs ou des fast-food ou des burgers, etc. Et puis, tous les glucides qu'il y a autour dans l'assiette. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout manger de glucides, mais simplement pour montrer que il y a vraiment une évolution des croyances vis-à-vis de ça. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que les graisses saturées sont pas néfastes et même qu'elles ont plein d'avantages. Et, et, Ah, oui, vas-y, Vincent, pardon.
Oui, la question, c'est pas forcément la question du gras, de savoir si c'est bon ou pas pour la santé, mais c'est plutôt la qualité du gras. On sait que le gras va être impliqué dans l'énergie, dans tout le système endocrinien, les hormones, la constitution des membranes. Donc, c'est en fait essentiel à la vie. Comment tu vois le suif? Parce que pour nous, c'est vraiment nouveau, tu vois. C'est la première fois qu'on en parle sur le podcast. Quel est l'intérêt, tu vois? Parce que là, tu as parlé du ghee, du beurre. Donc, on comprend que c'est des acides gras saturés qui sont stables à la cuisson. Mais quels sont les autres avantages du suif du bœuf d'herbe?
Oui, donc voilà, effectivement, c'est déjà une graisse qui est extrêmement stable à la cuisson. Donc, c'est un gros avantage parce que ça évite justement qu'il y ait des composés néfastes ou une forme d'oxydation, etc., qui se crée quand tu la chauffes. Et donc, comme je disais, donc déjà, c'est pas que des graisses saturées. Il y a 40% d'acide oléique dedans, qu'on connaît bien et qui est très très bien étudié pour ses vertus cardioprotecteurs. Lorsque c'est du suif qui est issu d'animaux élevés à l'herbe, eh bien, il y a aussi 5% d'acide gras polyinsaturé et notamment d'oméga 3, donc avec un ratio qui est idéal oméga 3 oméga 6, donc avec un effet plutôt anti-inflammatoire. Et ensuite, parmi les graisses saturées, bah, ça va se diviser en plusieurs types de graisses saturées différentes. Donc, tu as des acides gras saturés à chaîne courte, notamment de l'acide butyrique, qui est directement métabolisé par les cellules du côlon et qui va participer à la production du mucus protecteur, à la réduction de l'inflammation et de façon générale à la santé du microbiote. Tu vas avoir des acides gras à chaîne moyenne qui vont être métabolisés par le foie potentiellement en corps cétonique et qui permet vraiment d'avoir une énergie stable sans élévation de la glycémie. Et puis, tu vas avoir des acides gras saturés à chaîne longue, qui sont des précurseurs notamment des hormones stéroïdiennes, tu en as parlé, des éléments majeurs des membranes cellulaires. Et d'ailleurs, parmi ces acides gras saturés, il y a notamment de l'acide stéarique, qui représente à peu près 20% des acides gras du suif de bœuf d'herbe, et qui possède vraiment des effets hyper intéressants sur le métabolisme énergétique, notamment sur la biogénèse mitochondriale. Donc, ça peut vraiment stimuler la construction de nouvelles mitochondries. Les mitochondries, bon, bah, j'imagine que ton audience le sait très bien, mais c'est vraiment les centrales électriques de nos cellules. Et ça participe à la fois à la performance sportive, mais également à la longévité. J'en ai parlé, je crois que vous avez reçu Vincent Foulonneau sur le podcast, qui est un expert un peu de la longévité. Et pour lui, la sauvegarde des mitochondries, c'est vraiment l'élément central pour optimiser justement son vieillissement. Et cet acide stéarique, il a aussi un rôle à jouer dans l'apoptose des macrophages activés, donc concrètement sur le système immunitaire, et donc il va permettre la mort programmée de ces cellules lorsqu'elles deviennent déficientes. Et donc ça agit vraiment comme un modulateur immunitaire naturel qui permet à la fois de réduire l'inflammation chronique et puis de soutenir les fonctions métaboliques, quoi.
Est-ce que tu pourrais nous indiquer dans quelle mesure est-ce que de chauffer le suif va détériorer ses qualités intrinsèques? Parce que tu parlais des oméga 3 qui vont être complètement oxydés si je l'utilise pour faire cuire des steaks ou autre chose. Et est-ce que les autres corps gras vont être oxydés aussi par le fait de le chauffer?
Alors déjà, les oméga 3, en fait, contrairement à... Donc effectivement, normalement, les oméga 3, ils sont très très sensibles à la chaleur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'on consomme par exemple de l'huile de lin ou ce genre de choses, on dit qu'il faut absolument les garder au frigo, surtout pas les faire chauffer. C'est pas le cas avec les oméga 3 animaux, surtout quand ils sont préservés dans leur matrice. D'ailleurs, on le voit bien, tu vois, des sardines. Si tu manges les sardines, malgré le fait qu'elles aient été cuites, tu conserves tous les oméga 3, tu vois. Bah, c'est pareil avec le suif de bœuf. Donc, il reste il y a une petite déperdition, mais qui est relativement faible, de l'ordre de 10-15%. Donc, tu conserves la majorité des oméga 3. Ensuite, sur les autres nutriments, en fait, c'est des acides gras qui sont très stables à la chaleur. Donc, il y a vraiment pas de déperdition. Dans le suif, tu vas avoir quelques vitamines, mais c'est des vitamines liposolubles. Et contrairement aux vitamines hydrosolubles, c'est pareil, elles sont très stables et elles résistent très très bien à la chaleur. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de perte ou de problème. Et puis d'ailleurs, puisqu'on parle des vitamines, donc tu vas retrouver de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E, de la vitamine K2 et puis de la vitamine K. D'ailleurs, sous une forme MK4 qui est beaucoup plus biodisponible que d'autres formes, notamment la K1 qu'on trouve dans les légumes verts. Oui, Vincent.
Oui, c'est super intéressant ce que tu dis et la réflexion de Pierre aussi, elle interpelle, tu vois, parce que tu donnes ce suif vraiment pour la cuisson, pour une alternative à la cuisson, enrichie nutritionnellement. Mais est-ce que on sait que tu fais des tests, des analyses de tes produits, que ce soit les steaks, les huiles et là le suif. Est-ce que tu as fait aussi des analyses avant et après cuisson, par exemple?
Alors non, ça pour être honnête, je l'ai pas encore fait. J'aimerais bien le faire, mais en fait c'est des analyses qui sont somme toute assez complexes. Nous on fait tout analyser chez Eurofins, un laboratoire indépendant qui est un des plus gros laboratoires européens. Et avec eux en tout cas c'est pas possible. Enfin en tout cas quand on en avait discuté. Donc il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse nous accompagner là-dessus. J'ai un call là dans les semaines qui viennent avec une entreprise lyonnaise qui pourrait peut-être nous aider à le faire. Mais effectivement c'est quelque chose qui serait hyper hyper intéressant à tester.
Et par contre ce qui est vraiment intéressant c'est que tu fais des analyses de microtoxines sur le suif parce qu'on sait quand même qu'il y a beaucoup de métaux lourds qui peuvent être stockés. Il y a les vitamines liposolubles, mais aussi les métaux lourds qui vont être stockés dans le gras, que ce soit des animaux et notamment du bœuf. C'est aussi un réel défi d'avoir un gras de bonne qualité chez les animaux.
Bah, je pense la réflexion elle est beaucoup plus large que le suif de bœuf ou que la viande, mais elle est assez générale et c'est vrai que dans le positionnement de Féroce, dans notre ADN, il y a trois éléments. Le premier, c'est d'abord ne pas nuire, donc on garantit l'absence de polluants. Ensuite, nourrir avec des produits à haute densité nutritionnelle. Et enfin, durer en s'inscrivant dans l'agriculture régénérative. Et donc ce premier principe, ne pas nuire, il est vraiment essentiel pour nous et donc on teste tout en laboratoire. Et on garantit l'absence de pesticides, résidus médicamenteux, métaux lourds. Et puis, donc voilà, donc là, effectivement, il n'y a aucun métaux lourd détecté dans notre suif de bœuf.
Et dans la pratique, là, ce suif, comment tu pourrais me convaincre d'acheter le suif, tu vois, me mettre une petite mise en place, comment je reçois le suif? Est-ce que j'ai un bout de gras ou est-ce que ça arrive sous forme d'huile? Non, mais c'est vrai, tu vois.
Non, c'est en fait c'est vraiment un pot comme un pot de ghee, tu vois, et donc c'est un pot en verre que tu laisses sur ta gazinière à côté de tes plaques de cuisson. Et donc tout à l'heure d'ailleurs tu disais que c'était une alternative pour cuire des choses, mais en fait c'est pas que pour cuire. Ça a un goût un petit peu de noisette toastée, c'est hyper bon, ça a pas du tout le goût de gras de bœuf comme on pourrait l'imaginer. Et en fait tu peux faire des sauces avec, tu peux en mettre sur tes légumes et après les avoir fait cuire. Je sais que tu as reçu deux fois Marion Kaplan, donc elle t'a certainement parlé de son vitaliseur. Tu peux faire cuire tes légumes au vitaliseur et puis après tu mets une petite cuillère à soupe de suif dedans avec un petit peu de sel, c'est super bon, tu vois. Donc c'est vraiment aussi un truc qui peut te permettre d'assaisonner. Tu peux en mettre sur des tartines de pain et puis mettre un peu de miel après dessus. Tu peux en utiliser dans les pâtisseries. Enfin, c'est vraiment très très large. Donc j'ai parlé des différents acides gras qu'il y avait dedans. Mais pour te convaincre, je peux rajouter deux trois éléments qui sont à mon avis intéressants. Il y a des acides gras qui sont vraiment rares dans l'alimentation de façon générale, qu'on ne trouve pas dans d'autres produits et qu'on retrouve dans le suif. Notamment l'acide linolénique conjugué. La seule source alimentaire de CLA, c'est le gras d'origine animale. Donc, il y en a dans notre viande, mais il y en a beaucoup plus, évidemment, puisqu'il se concentre dans le gras, dans notre suif. Et donc, ça, c'est de plus en plus étudié par les scientifiques comme une molécule de longévité, parce qu'il participe à protéger contre les maladies cardiaques, à prévenir le diabète de type 2. Il a des effets anticancéreux. Il y aurait même, sur certaines études, des effets sur la perte de poids. On va aussi retrouver des oméga 7, qui est un acide gras monoinsaturé qui est assez méconnu, vraiment rare dans l'alimentation. Alors le corps est capable d'en produire tout seul à partir de précurseurs, mais le fait d'en consommer dans l'alimentation a des bienfaits supplémentaires, notamment pour la santé de la peau et des muqueuses. Donc on repense notamment aux muqueuses intestinales qui sont souvent malmenées par toute notre alimentation moderne. Et aussi sur la régulation du métabolisme des lipides. Donc ça aide à normaliser les lipides sanguins et donc il y a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Et d'ailleurs ça c'est un peu général au CLA, au suif de bœuf, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait l'acide stéarique, t'as les oméga 7, t'as le CLA, Tout ça, c'est des acides gras qui vont avoir des effets un peu, enfin, pas un peu totalement anti-inflammatoires. Et donc, je pense que c'est vraiment intéressant comme alternative, notamment aux huiles de graines, tu vois, qui ont souvent un ratio oméga-6, oméga-3 déséquilibré, donc qui vont avoir une tendance pro-inflammatoire. Je pense notamment ben, à l'huile de tournesol, etc., qui vont avoir un effet inflammatoire sur le corps. Donc voilà, donc je pense que dans le cadre, pour moi, tu vois, les deux seules graisses de qualité dans l'alimentation humaine, c'est d'une part le suif de bœuf et d'autre part l'huile d'olive. C'est vraiment les deux meilleures sources d'acides gras qui sont cohérentes avec notre physiologie et qui ont des bienfaits. Bon, évidemment, on pourrait citer, tu vois, potentiellement le fromage au lait cru ou le beurre au lait cru si c'est issu d'animaux qui ont été élevés à l'herbe. Voilà, c'est pas vraiment le même type d'aliment, tu vois. Enfin, le fromage, tu le manges comme ça, tu vas pas l'utiliser pour assaisonner tes légumes ou pour cuire de la viande.
Et tu cites pas le gui, alors?
Ah, il n'est pas
Non.
gay, c'est pas son.
Non,
Ah
j'avoue
ouais.
que non, je connais pas bien, j'avoue que j'utilise pas. Ça m'arrive d'utiliser du beurre, par contre, au lait cru. Donc pour le beurre, je vais privilégier voilà, du beurre fermier, au lait cru, issu d'animaux vraiment 100% à l'herbe. Donc c'est hyper important que ce soit vraiment, que tu vois, t'as plein de, tu vois des vaches laitières et tu te dis oui, elles ont brouté de l'herbe. Ok, elles ont brouté de l'herbe, mais derrière, à chaque fois qu'elles sont rentrées, elles mangent aussi du maïs et du soja. Donc il faut pas faire le raccourci de penser que parce que tu vois des vaches en pâturage, elles mangent que ça. C'est rarement le cas. Surtout sur des élevages un peu intensifs avec des Holstein qui sont vraiment sur des cycles hyper répétés. C'est des races de vaches en plus qui ont été très sélectionnées tu parlais de caséine tout à l'heure avec le ghee. Il y a deux types de caséine. Tu as des caséines de type A1 et des caséines de type A2. Les caséines de type A2, c'est un peu les caséines ancestrales et elles sont assez bien gérées par le corps humain. Par contre, les caséines de type A1, c'est elles qui vont avoir plutôt un effet immunitaire, une réaction immunitaire du corps. On les trouve de façon beaucoup plus concentrée dans ces vaches qui ont été hyper sélectionnées, notamment les Holstein, à l'inverse de vaches plus rustiques, on va dire. Donc on pourrait citer les Jerseys qui sont à base de, enfin, qui sont utilisées pour les beurres et les fromages de Gabriel Gabory, dont Marion Caplan parle souvent. Mais moi qui habite en Haute-Savoie, j'ai aussi accès à des fromages et des beurres qui viennent de vaches d'abondance notamment dans l'AOP abondance c'est des vaches qui peuvent on peut pas utiliser d'ensilage. Donc elles sont naturellement sans maïs ni soja, elles mangent de l'herbe de montagne, donc de l'herbe d'hyper bonne qualité, et puis c'est des races un peu plus anciennes et donc avec une proportion de caséine A2 beaucoup plus importante. Donc voilà, donc moi j'ai de la chance, j'y ai accès parce que c'est ma région, j'ai des producteurs juste à côté de chez moi. Donc voilà pourquoi j'utilise pas de.
Est-ce que tu peux réenfoncer le clou sur le fait tu dis que le suif, on le trouve entre les entrecôtes. Moi, je m'achète une entrecôte et en fait, je prends le gras et j'ai du suif aussi. Pourquoi ton suif, il serait vraiment plus qualitatif? Tu vois, que tu reprennes un petit peu toute la production. Pourquoi les vaches élevées à l'herbe, elles vont avoir une meilleure qualité? Enfin, voilà,
Alors,
juste.
je pense que notre suif, il n'est pas plus qualitatif que des acides gras que tu trouverais dans nos entrecôtes, dans nos hachés féroces, etc. C'est juste que c'est une utilisation qui est différente parce que c'est difficile d'assaisonner tes légumes en faisant fondre une entrecôte dedans. Par contre, là où notre viande, notre suif et nos produits se différencient, c'est effectivement par le mode d'élevage. Donc, on est sur des animaux qui ont été nourris exclusivement à l'herbe, sans maïs ni soja. Or, le maïs et le soja sont très riches en oméga-6. Et donc, ces oméga-6 végétaux, lorsqu'ils sont consommés par les animaux, viennent s'incruster dans leurs membranes cellulaires. Et nous, quand on les mange, eh bien, ils vont avoir un effet potentiellement inflammatoire sur le corps. Et c'est ça qui est assez dingue. C'est que du bœuf nourri à l'herbe versus du bœuf conventionnel va avoir des effets opposés sur la physiologie humaine. Alors, on pourrait regarder sur le profil nutritionnel, la teneur en vitamines, en minéraux, en acides gras, etc., qui est radicalement différente. Mais même sans parler de cette teneur, cette densité nutritionnelle, juste en regardant l'aspect physiologique, eh bien, il y a des études qui ont testé, qui ont donné du bœuf conventionnel à des humains, et du bœuf nourri à l'herbe à un autre groupe d'humains et qui ont testé les marqueurs sanguins 4 heures plus tard. Donc là, c'est pas une étude animale, hein, c'est vraiment sur des humains, etc. Ils ont testé le sang 4 heures plus tard et ils ont trouvé plein de molécules liées, c'est un peu complexe, mais on va faire un raccourci, anti-inflammatoire. Je pourrais d'ailleurs vous donner les références de l'étude. Anti-inflammatoire dans ceux qui avaient mangé du bœuf nourri à l'herbe. Et à l'inverse, des molécules inflammatoires dans ceux qui avaient mangé le bœuf conventionnel. Donc ça veut dire que les deux s'appellent bœuf, mais ont des effets opposés sur la physiologie humaine. C'est quand même assez incroyable. Donc ça, c'est le premier point. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est comme je le disais, étant donné qu'on teste tout en labo, ben, je peux te garantir que la viande que tu manges ou que le suif que tu utilises, il est vraiment exempt de polluants. Et aujourd'hui, je connais aucune marque dont tu peux être absolument certain de la qualité de ce que tu manges. Et quand tu vois que tout est pollué, c'est un vrai game changer.
Tu sais, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à, a priori, même produit, mais pas du tout les mêmes effets au niveau physiologique. Mon beau-frère me faisait la réflexion du prix de la viande, tu sais. Et il me disait, mais moi, au final, je vais chez le boucher et... Enfin, t'es gentil, mais les hachés féroces, ça a quand même un certain coût. Moi, je vais chez le boucher, mais moi, j'arrive à avoir des steaks hachés à un prix bas, tu vois. Ouais. Ce que je disais, mais tu payes pas la même chose. C'est pas le même produit. Ça, c'est intrinsèquement, c'est marqué la même chose. C'est des steaks hachés, hein. Dans le frigo, bon, ouais, t'as deux steaks hachés. S'ils font le même poids, bon, mais à l'aspect quand même, tu vois une différence. Mais ça reste les deux des steaks, mais intrinsèquement, ce qu'il y a dedans, ça n'a complètement rien à voir.
Bah, c'est vrai que on a. Alors, il y a deux choses. Déjà, tu vois, nos hachés féroces, ils ont un prix qui est dégressif selon la quantité, parce que comme on offre la livraison, eh bien, la livraison en pourcentage représente moins si tu fais une commande un peu plus grosse. Et donc, plutôt que de mieux marger, ben, on rétribue entre guillemets cette économie à nos clients. Donc on encourage vraiment les clients à faire de plus grosses commandes moins régulières, ce qui permet de mieux amortir les frais de livraison en surgelé. Et donc si tu fais une commande, si tu achètes 3 packs de hachés par exemple, tu arrives à un prix au kilo à 26 € à peu près, ce qui équivaut à des steaks hachés bio de grande surface. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième
pour
point.
Pour quelle quantité
Pour 3 packs de hachés, ça fait 24 hachés. Donc, si tu achètes 24 hachés, ils sont surgelés. Donc, tu les laisses dans ton congèle et t'en sors 2 par semaine. Tu reviens à peu près à 26 € le kilo, ce qui est clair avec des steaks hachés bio de grande surface. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose.
Moins cher.
Qui est lié à cette espèce de croyance selon laquelle le fait d'acheter de la viande chez le boucher est de meilleure qualité que d'acheter de la viande de grande surface. En fait, c'est pas forcément le cas. Le boucher, il va peut-être avoir une forme de travail de sourcing pour essayer d'avoir des beaux morceaux, etc., sur le plan organoleptique, donc en termes de goût, de tendresse, etc., mais il s'intéresse absolument pas à la façon dont les animaux ont été élevés, à savoir si c'est des races de vaches qui sont rustiques, qui vont pas avoir eu besoin de traitements d'antibiothérapie, etc. Parce que en fait, si tu veux, les meilleures races à viande, c'est des races qui ont été hyper sélectionnées, qui sont fragiles par conséquent, qui peuvent pas vivre dehors, donc elles sont enfermées la plupart du temps. Pour qu'elles prennent énormément de masse musculaire, on les gave de compléments de maïs, de soja, etc. Elles développent tellement de masse musculaire qu'elles développent des maladies, donc des problèmes de dos, des problèmes respiratoires, des difficultés à se déplacer, etc. Et elles sont souvent malades, donc tu es obligé de faire des antibiothérapies régulières pour les garder en vie. Et à la fin, certes, tu as une production qui est énorme en termes de viande, une viande qui, d'un point de vue gustatif, est probablement excellente, mais qui, d'un point de vue profit nutritionnel, est catastrophique, avec un profil d'acides gras oméga-3, oméga-6 qui est hyper déséquilibré, donc il y a 15 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3, là où nous, on est sur un ratio équerre. Tu as un stress oxydatif, une santé mitochondriale, etc., qui est autrement plus faible. Donc, en gros, tu as un animal qui est malade et nous, on mange cet animal qui est malade, tu vois. Et donc, le fait d'aller chez le boucher, tu vas peut-être avoir une viande qui est très, très bonne en termes de goût, mais qui n'est pas forcément meilleure sur le plan de la santé humaine. Et nous, la finalité de Féroce, c'est d'abord de privilégier la santé humaine, même si on s'aperçoit qu'il y a une espèce de continuum entre les deux, c'est-à-dire que quand on a des animaux qui ont été bien élevés, en respect de ce qu'une vache est censée faire, c'est-à-dire qu'une vache est un ruminant, elle est faite pour manger de l'herbe. Donc quand on respecte ses comportements naturels, eh bien, d'une part, on préserve le bien-être animal, il y a des aspects environnementaux, etc., qui sont très très intéressants. On a une viande qui, sur le plan nutritionnel, est parfaite pour la santé humaine, mais également, comment dire, en termes de goût, on s'aperçoit qu'elles sont super bonnes. Et ça, enfin, tu vois, mon beau-père, par exemple, à qui j'offre de temps en temps une petite commande féroce, il m'a dit que c'est les meilleures entrecôtes qu'il ait mangées de sa vie.
Bah, nous, on a essayé féroce, hein, et franchement, c'est exceptionnel. Hein, et on vous invite tous à essayer. Pierre, tu as parlé de ton beau-frère. David, ton beau-père, bah, je vais parler de ma belle-mère. Elle a fait une commande féroce et elle m'en a parlé tout le week-end. Elle adore. Ce que je voulais dire, c'est ton discours, tu vois, sur les bouchers. Il est impactant. Hein, il faut oser le dire, tu vois. Et moi, j'ai un boucher, par exemple. C'est un amoureux. Il s'appelle Christophe, rue des Martyrs à Paris. Et c'est un artiste, tu vois. Et je pense qu'il y a des bons plombiers, des mauvais plombiers. Et pareil, sur tous les corps, tu vois. Toi, tu vas chercher des éleveurs, tu t'intéresses, tu essaies de trouver ça. Et donc, si vous connaissez votre boucher, c'est aussi une bonne chose. Féroce vous propose, en fait, d'avoir une vision objective de ce que vous mangez avec un QR code. Vous avez exactement votre viande qui est analysée. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Ce que je voulais dire, David, c'est ta réflexion, c'est… On vit dans une société de consommation où tout est disponible. Et en fait, peut-être notre seul garde-fou, c'est de s'assurer d'avoir une vraie qualité dans ce qu'on mange.
Complètement. Et tu fais bien de préciser pour les bouchers. C'est vrai que j'ai été un petit peu peut-être vindicatif. En fait, mon idée, c'était pas de les clouer au pilori. Il y en a plein qui font les choses de façon extrêmement vertueuse. Et c'est des artisans dont je respecte totalement le travail et l'engagement. Ce que je voulais dire, c'était que c'était pas une garantie en soi et que surtout, la finalité première du boucher, c'est d'avoir une viande d'extrêmement bonne qualité sur le plan gustatif, alors que la finalité première de Féroce, c'est d'avoir une viande extrêmement qualitative sur le plan de la santé humaine. Et donc, forcément, en fonction de la finalité que tu recherches, tu vas pas avoir les mêmes critères. Et pour un boucher, le fait qu'elle ait mangé du maïs ou du soja, il s'en fout, tu vois. Il sait même pas quel impact ça a parce que ça va pas forcément changer le goût de la viande. Tandis que pour moi, c'est un élément fondamental.
Écouter des podcasts, c'est bien, mais vivre un événement, c'est encore mieux. L'équipe de 1000% a eu le plaisir de participer à l'édition 2025 à Lyon du Sommet de l'Hypersanté. C'est l'événement référent sur la longévité, un lieu, mais aussi un moment exceptionnel pour rencontrer des gens inspirants et qui nous tirent vers le haut. L'opportunité de rencontrer des experts, des médecins, des chercheurs, des entrepreneurs dans le domaine de la longévité, mais aussi des passionnés comme vous et moi. C'est vraiment une expérience à 1000% autour d'un objectif commun, vivre mieux et plus longtemps. On se donne rendez-vous au sommet de l'hypersanté en 2026.
Et si on se faisait une petite transition sur l'huile d'olive, mais vraiment sans aucune transition, tu en as parlé tout à l'heure, pour toi les deux sources de gras pour toi qui ont le plus de valeur, c'est le suif de bœuf d'herbe et l'huile d'olive. Bah, parle-nous de ton huile d'olive, David.
Bah d'ailleurs ouais tu vois c'est Brian Johnson qui a quand même beaucoup popularisé l'huile d'olive pour ses bienfaits pour la longévité. Je me souviens d'une vidéo où il disait que si dans son protocole il y avait qu'une seule chose qu'il devait garder, ça serait une huile d'olive riche en polyphénol. Et quand tu vois les millions qu'il dépense chaque année, les 30 médecins qu'il a, sa salle de sport personnelle, ses gadgets high tech, ses analyses de sang à n'en plus finir et sa pile de compléments alimentaires. Et qui dit qu'au final son plus grand hack c'est d'huile à haute teneur en polyphénol. Bah voilà, tu dis que potentiellement ça peut être intéressant. Et puis en réalité, c'est quand même, tu vois, dans la philosophie de Féroce, il y a quand même cette volonté d'avoir des aliments qui soient vrais, bruts, etc., mais qui étaient déjà consommés il y a 1000 ans, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de modes, par exemple, je sais pas, les champignons adaptogènes, etc., qui ont peut-être des bienfaits, j'en sais rien. J'ai l'impression qu'on manque de recul là-dessus. Tu vois, il y a souvent des molécules qui arrivent comme ça, et puis on se dit c'est la panacée. Là, notamment avec toutes les recherches autour de la longévité, on a cru à un moment que c'était resvératrol et que c'était parfait. Et puis en fait, on s'aperçoit que, avec du recul, qu'il y a des effets collatéraux qu'on n'avait pas envisagés initialement, et que finalement, bah, c'est pas si bénéfique que ça. Et j'ai l'impression que dans la nature, tout est généralement équilibré, et que ce qui a des bienfaits peut avoir aussi des méfaits entre guillemets, surtout quand c'est sur des doses supra, enfin, inconnues dans le monde animal et dans le monde vivant. Et Et voilà, et donc, avec Féroce, on a la volonté de développer donc des produits à haute densité nutritionnelle, mais qui existaient déjà il y a 1000 ans, qui ont résisté à l'épreuve du temps. Et tu vois, l'huile d'olive, ben, elle est consommée depuis 6000 ans, donc c'est quand même assez âgé, moins que le suif, puisque le suif, il a été consommé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Mais voilà, mais on a trouvé des traces de première culture en Crète, et voilà. Et puis après, l'huile d'olive a vraiment traversé les âges, mais a surtout été popularisée dans les années 50 par le physiologiste Ansel Keys, qui a pas que du bon, hein, parce que bon, enfin bref, on va pas rentrer dans le débat, mais soit. Et donc suite à ses travaux, notamment lorsqu'il s'est aperçu que il y avait une longévité vraiment incroyable dans les populations du sud de l'Italie et de la Crète, alors que et donc notamment très peu de maladies cardiovasculaires, alors qu'ils mangeaient énormément de graisse. Je crois que jusqu'à 40% de leur alimentation était composée de lipides. Bon, ça n'a rien à voir avec le régime cétogène, mais ça reste quand même hyper important comparé à ce qu'ils se faisaient par ailleurs. Et donc, il était un petit peu surpris de voir que c'était des gens qui mangeaient beaucoup de lipides et pour autant, ils n'avaient pas de maladies cardiovasculaires. Bon, après, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, cette compréhension autour du gras, elle était assez mal comprise à l'époque, et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment pas le gras le problème. Mais toujours est-il que c'est ce qui l'a poussé à s'intéresser à ses diètes, et notamment à l'huile d'olive, et à découvrir que ben, l'huile d'olive était très riche, notamment en acide oléique, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça représente à peu près 60% des graisses de l'huile d'olive. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, tout à l'heure, je disais, ben, dans le gras animal, on a l'impression que c'est que des graisses saturées, alors qu'en fait, il y a 40% d'acide oléique. Ben, dans l'huile d'olive, on a l'impression qu'il n'y a que du monoinsaturé parce que c'est ce dont on parle le plus. En réalité, ça représente que 60%. Donc, il faut bien comprendre que dans les graisses, c'est toujours un continuum et puis tu as toujours un peu de monoinsaturé, un peu de saturé et un peu de poly. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, il s'est aperçu des avantages de l'acide oléique. Et puis, c'est ce qui a commencé à mener cette espèce de popularité de l'huile d'olive qui a fait qu'on en a produit de plus en plus. Et c'est ce qui a causé, entre guillemets, enfin, ce qui cause, selon moi, d'une certaine façon, sa dégradation. Parce que pour être capable de répondre à la demande grandissante des populations, bah, on est rentré dans des procédés de plus en plus industriels et l'huile est devenue de moins bonne qualité. Tu vois, il y a une étude là de 60 millions de consommateurs qui date de peut-être 3-4 mois où ils ont testé une trentaine de références de grandes surfaces, dont la moitié était bio. Donc, il y avait la moitié conventionnelle, la moitié bio. Bah déjà, elles étaient toutes polluées en microplastiques et hydrocarbures. Donc, tu vois, tout à l'heure, quand je disais que la réflexion autour de ce principe de ne pas nuire et puis de tester les trucs pour vérifier l'absence de polluants, elle va bien plus loin que la viande. Elle est générale. Aujourd'hui, être capable d'acheter un produit en étant certain qu'il va pas te nuire, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel en soi. Donc voilà, donc elles étaient toutes polluées aux microplastiques et hydrocarbures, et puis globalement pauvres en polyphénols. Donc les polyphénols, c'est des espèces de molécules que les plantes développent pour se défendre contre les agressions. Donc ce peuvent être le stress hydrique, la sécheresse des sols, les insectes, les ultraviolets, etc. Et donc elles vont développer des boucliers pour se défendre. Et lorsque on les consomme, bah, ces boucliers, ils peuvent s'intégrer dans nos cellules et les rendre plus forts, pour faire simple. Et donc les polyphénols, c'est hyper intéressant. On pourrait y revenir un peu plus, mais juste pour
Oui.
terminer sur cette différence entre les huiles de grande surface, on va dire, et puis une vraie huile d'olive. Bah, la teneur en polyphénol d'une huile de grande surface, qu'elle soit bio ou non, est à peu près de 100-150 mg par kilo. Et à titre de comparaison, celles qui sont utilisées dans les études qui vantent les vertus de l'huile d'olive dépasse en général les 400 mg par kilo. Celle que Brian Johnson consomme et vend, je crois qu'elle est à 450 ou 500. Celle de Féroce, elle est à 622. Et il en existe qui sont encore plus concentrés en polyphénol. Je crois qu'il y en a qui montent jusqu'à 800, 850 mg par kilo. Donc voilà, donc on s'aperçoit que en fait, si tu veux avoir les bienfaits et les vertus de l'huile d'olive de grande surface, bah, tu vas devoir en consommer 4 ou 5 fois plus. Parce qu'elle est tellement faible en polyphénol que, en réalité, tu ne peux pas vraiment avoir bénéficié de tes bienfaits sauf à boire toute la.
Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10, lien et code en description.
Retour au podcast.
Bouteille, quoi.
Tout en étant exposé à des pesticides ou à d'autres polluants. Et moi, j'avais vu du coup cette étude, je crois que c'est UFC Que Choisir, j'en avais parlé aux gars, ils avaient testé, je crois, 80 huiles. Il n'y en avait que 5 qui étaient au-dessus de 12 sur 20. Donc, c'était catastrophique.
Ah, c'est une catastrophe. Hein.
Moi, ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est quel est ton cahier des charges pour choisir ton huile ? Qu'est-ce qui est important pour toi pour avoir une huile de qualité ?
Justement, tu vois, pour avoir une huile qui est riche en polyphénol, les polyphénols, comment expliquer ça ? En fait, si tu veux, nous, quand on respire, on s'oxyde naturellement. L'oxygène, il est indispensable au fait de vivre et de survivre, mais il crée de l'oxydation. Cette oxydation, c'est notamment des radicaux libres qui sont des molécules instables qui peuvent créer un stress organique et petit à petit qui conduisent à notre vieillissement, au vieillissement cellulaire. Pour s'opposer à ce stress oxydatif, eh bien, il y a des composés comme les polyphénols et les antioxydants qui vont venir tamponner comme si ça attrapait ces radicaux libres. Mais une fois que ça réagit ensemble, ça neutralise le radical. Mais derrière, ça y est, la molécule, elle est utilisée, elle peut plus être utilisée, tu vois, elle a été brûlée, entre guillemets. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que ça montre comment les polyphénols peuvent agir sur notre physiologie. Mais ça explique aussi pourquoi est-ce que la plupart des huiles d'olive sont faibles en polyphénols. Parce que les huiles d'olive classiques, en fait, lorsque l'olivier a ses olives, les olives, elles mûrissent, elles deviennent noires, et puis après, elles tombent au sol, et au sol, elles commencent à fermenter. Et la fermentation, c'est quoi? C'est une oxydation, en fait, des olives. Et donc, pendant ce processus d'oxydation, de la même façon que dans notre corps, les polyphénols, ils vont réagir pour tamponner ce stress oxydatif sur les olives qui sont tombées par terre. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on en retrouve quasiment plus après dans la bouteille. C'est parce qu'ils ont déjà tous réagi avant que l'huile soit pressée. Donc, le procédé classique, c'est ça. C'est qu'on attend que l'olive, elle mûrisse au maximum, qu'elle tombe au sol. Ça permet d'avoir une densité de chair par rapport au noyau qui est plus importante et beaucoup moins de travail pour la récolte puisque tout est déjà tombé par terre. Et ensuite, on presse ça et puis on met ça en bouteille. Nous, ce qu'on fait pour l'huile d'olive féroce, c'est qu'on va on va récolter directement les olives sur l'arbre au stade de maturité optimale du fruit, qui fait qu'elle n'a pas eu le temps de fermenter et on va la presser dans les heures qui suivent parce que là, vraiment, la notion de temps a une importance. Dès qu'on la récolte, il faut vraiment que ce soit pressé rapidement pour préserver justement tous ces polyphénols bénéfiques. Et donc voilà, donc ça va être pressé dans les heures qui suivent. Et puis ensuite, c'est mis en bouteille. Et donc, il y a évidemment toute une attention dans le processus de production, donc de pressage, pour pas dépasser une certaine température, dans la façon dont c'est pressé, dans les machines qu'on utilise, dans la mise en bouteille, pour garantir l'absence de contamination. Donc notamment, il y a plusieurs types de contaminations qui peuvent arriver dans l'huile d'olive pendant le procédé de formulation, notamment liées aux machines qui sont utilisées elles-mêmes, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui pourrait apporter des polluants et ce qui explique que dans ces études qu'on citait, on retrouvait des hydrocarbures, etc. dedans. Et nous, à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des analyses labo, déjà qui vont nous permettre de tester la teneur en polyphénol. On va aussi regarder ce qu'on appelle l'acidité. L'acidité, c'est la teneur en acide gras libre. Et donc, plus elle est faible, mieux c'est. Donc, nous, il faut qu'elle soit inférieure à 0,2%. Pour qu'une huile soit considérée comme extra vierge dans le commerce, c'est 0,8%. Donc, on est 4 fois plus faible que la norme de grande surface, on va dire. Et puis ensuite, on va tester ce qu'on appelle les MOSH et MOAH, qui vérifie en fait l'absence de contamination et de polluants. Et puis enfin, on va tester les indices UV, donc K232, K270, alpha K et peroxyde. Et ça, c'est ce qui permet de vérifier l'absence d'oxydation. Donc on teste tout ça, c'est en bouteille. Et après, le dernier élément, c'est de choisir des bouteilles qui soient opaques pour empêcher les ultraviolets d'arriver dans l'huile, parce que les ultraviolets, c'est pareil, ils vont détruire les polyphénols. Et empêcher le fait qu'il y ait de l'oxygène qui arrive dedans, parce que l'oxygène, comme j'ai dit, ça va créer de l'oxydation et donc faire réagir les polyphénols qui vont être détruits. Et pour ça, on ne vend des bouteilles que âgées d'un an maximum. C'est-à-dire qu'on a fait une récolte en octobre 2024, et donc là, ces bouteilles-là, cette production-là, elle a un an. Donc, on a tout vendu. Et donc, on est en rupture de stock sur l'huile d'olive et on va être en rupture de stock jusqu'au réassort de janvier qui vient de la dernière récolte d'octobre de cette année-là. Et on ne peut pas mentir parce que sur l'étiquette, on écrit la date de la récolte et puis on écrit aussi d'ailleurs toutes les analyses qu'on a fait dessus. On est un peu obsessif.
Pourquoi ne pas aussi se diriger vers des produits, par exemple, de l'huile de noix ou de l'huile de noisette? Et quelle serait la différence avec ça? Parce que tu peux aussi avoir de l'huile qui est produite avec uniquement des procédés mécaniques. On voit bien que c'est la différence avec l'huile de tournesol qu'on va trouver dans le commerce, où ce n'est pas uniquement des procédés mécaniques qui permettent de l'extraire et en plus qui a un profil lipidique qui est complètement différent de l'huile d'olive. Comment se positionner par rapport à ces huiles qui sont, tu vois, l'huile de noix dans le Périgord, c'est une spécialité. Uniquement par des procédés mécaniques, ça semble, c'est sexy quand même, non?
Ouais. Donc déjà c'est bien parce que tu différencies ce qu'on appelle les huiles de graines. Donc il y a les huiles de graines, les huiles
de fruits.
Allez, les huiles de graines, les huiles de fruits, et puis les huiles de noix. Et donc les huiles de graines, pour moi, il faut absolument les éviter. Comme tu l'as expliqué, tu peux pas juste l'obtenir par des procédés mécaniques. Et donc c'est ce qui va être huile de tournesol, huile de soja, huile de pépins de raisin, huile de colza, voilà. Donc tout ça, je pense que potentiellement c'est des huiles modernes et moi je les considère en tout cas comme potentiellement problématiques et donc je les évite. Ensuite, t'as les huiles de noix qui potentiellement peuvent être obtenues par des procédés mécaniques comme tu le cites. Après sur les huiles de noix et de noisettes, malgré tout, je trouve que il y a elles peuvent être bonnes, etc. Je suis pas spécialement opposé. Après, je les trouve pas particulièrement intéressantes sur le plan de la santé humaine. J'ai pas l'impression qu'elles apportent des composés qu'on pourrait pas trouver ailleurs. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que elles ont un profil d'acide gras oméga-3, oméga-6 qui est plutôt déséquilibré. Dans le sens où même si tu as des oméga-3, c'est des oméga-3 végétaux qui sont très mal absorbés, très mal métabolisés. Par contre, les oméga-6, c'est des oméga-6 qui sont parfaitement métabolisés. Donc, si tu prends en compte le ratio de conversion des oméga-3 pour qu'ils soient utilisés par le corps, en fait, c'est potentiellement des huiles qui sont quand même trop riches en oméga-6 de mon point de vue. Et là, la façon dont se différencie l'huile d'olive, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que sa teneur, justement, en acide oléique va avoir plusieurs effets. Des effets cardioprotecteurs, neuroprotecteurs, prévention du diabète de type 2, anticancéreux. Il y a une étude d'ailleurs de très récente de 2022 qui montre que la consommation de 20 ml d'huile d'olive par jour est associée à une diminution de 19% des risques de mortalité toutes causes confondues. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont très très intéressantes et qui sont liées à des composés spécifiques de l'huile d'olive. Et après, si on va un peu plus loin et qu'on regarde sur la partie justement polyphénolique, il y a des choses qui sont vraiment absolument fascinant, je trouve, notamment l'un des polyphénols qui s'appelle l'hydroxytyrosol, qui est l'un des polyphénols les plus intéressants de l'huile d'olive et qui a des impacts mesurés sur la longévité, donc de trois façons différentes. La première, c'est sur la santé du microbiote. Donc on s'aperçoit que ces polyphénols participent à rééquilibrer le microbiote, donc à diminuer les bactéries pathogènes comme E. coli, etc. et à augmenter par contre les bactéries bénéfiques. On voit qu'il y a aussi une diminution des LPS et des cytokines qui sont produites dans l'intestin et qui sont des sources d'inflammation et de stress oxydatif à l'intérieur de l'intestin. Et quand on voit aujourd'hui tous les problèmes de leaky gut, d'intestin perméable, etc., notamment parce que notre muqueuse elle peut être stressée par le gluten, par des produits transformés, les édulcorants, les émulsifiants, enfin tout ce que tu trouves là-dedans, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a une étude de 2020, par exemple, qui a montré que l'hydroxytyrosol diminuait tous les dommages oxydatifs et a augmenté la protection des cellules endothéliales. Et on mesurait la production d'enzymes antioxydantes comme la superoxide dismutase, qui est l'antioxydant le plus puissant du corps, endogène. Donc, il est fait par le corps, il est produit par le corps, mais le fait de consommer une huile d'olive riche en polyphénol, notamment en ce polyphénol, augmenter cette production-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'aspect mitochondrial, où là encore, et donc c'est lié à ces effets antioxydants, on voit une diminution de la production de radicaux libres dans les mitochondries. Donc, voilà. Et, Et donc voilà, et donc ça diminue en fait, si tu veux, les dommages oxydatifs qui sont faits à l'ADN mitochondrial, parce que la mitochondrie, en fait, c'est une bactérie qui est ingérée et qui fait partie de nos cellules et qui a sa propre ADN. Et dans ce processus mitochondrial de production d'énergie, de respiration cellulaire, bah, il y a ces radicaux libres qui peuvent arriver, qui peuvent endommager l'ADN mitochondrial. Donc là, on voyait vraiment qu'il y avait une diminution de ces dommages oxydatifs, donc une préservation de la santé, de l'ADN, de la structure de la mitochondrie. Et qu'il y avait aussi une régulation positive de la biogénèse mitochondriale. Donc un peu pareil que ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au SWIFT, bah, on voit vraiment qu'il y a une augmentation de la production des mitochondries. Et à l'intérieur des mitochondries, il y a aussi une augmentation de l'efficacité de la chaîne de transfert des électrons. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais en fait, dans la chaîne de transfert des électrons au sein de la mitochondrie, à chaque fois, il y a un petit peu de perte d'énergie avec des fuites d'électrons. Et donc là, il y a moins de ces fuites-là. Donc, c'est comme si à la fois, on avait plus de centrales électriques et que ces centrales électriques, elles étaient plus efficientes. Et, ouais, vas-y.
Excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai une réflexion par rapport à ce que tu dis. En fait, on a fait un épisode avec Marion Kaplan. On a parlé des antinutriments, on a parlé des oxalates, des lectines, et j'ai l'impression que les polyphénols ont aussi un caractère d'antinutriments parce que c'est un micro-stresseur. Ça va avoir des qualités antioxydantes, que ce soit direct ou indirect, parce que ça va stimuler notre système endogène à produire nos antioxydants. Ça va aussi nourrir les bonnes bactéries, je comprends. Et c'est aussi un micro-stresseur, tu vois. Ça fait partie du système de défense des végétaux. Pourquoi les polyphénols seraient mis en avant et pourquoi pas les oxalates et les lectines? Est-ce que tu as la réponse à ça?
Ouais, alors je finis juste sur le dernier avantage, le troisième avantage de l'hydroxychirosol pour la longévité. Donc le dernier point, c'est sur les télomères. On a observé que donc les télomères, c'est l'espèce de capuchon qu'il y a sur les chromosomes, et à chaque division cellulaire, ça permet de protéger la structure de notre propre patrimoine génétique. Et donc on s'aperçoit que l'hydroxychirosol permet de protéger justement ces télomères et donc favorise la stabilité génétique et diminue la dégradation des chromosomes, notamment en boostant la production de télomérase, qui est cette enzyme justement qui entretient et nourrit et préserve cette santé-là. Et donc ensuite, ta question sur les antinutriments et les polyphénols, elle est complexe et plus large en fait. Je pense qu'elle est liée à un raccourci qu'on fait, qui est de parler de polyphénol. Alors qu'en fait, au sein des polyphénols, c'est une grande famille dans lesquelles tu as des milliers de molécules différentes. Tu vois, là, je te parle de l'hydroxychirosol, mais tu as aussi, on a parlé précédemment du resveratrol. Enfin, il y en a plein des polyphénols. Et ils ont tous des effets différents, tu vois. L'acide phytique ou les oxalates, etc., ça, pour le coup, c'est considéré comme des antinutriments parce que soit ça diminue l'absorption de certains minéraux parce que c'est un effet chélateur, etc., soit parce que ou de protéines d'ailleurs on pourra reparler, c'est peut-être un sujet intéressant aussi. Donc ça, c'est le premier impact, soit dans le cas des oxalates parce que il y a des formes de réaction, mais c'est encore lié en fait à cet effet chélateur qui fait que ça peut créer des cristaux, etc., qui vont s'accumuler dans certaines parties du corps. Et c'est pour ça qu'on considère que les oxalates, ça peut être, il faut potentiellement y faire attention. Encore que moi, et donc ça n'engage que moi, ma croyance vis-à-vis de ça, c'est que le corps est tout à fait capable de détoxifier les oxalates. Ce qui pose problème, c'est quand tu manges les mêmes produits tous les jours. Parce que si tu manges, des épinards riches en oxalates tous les jours, toute l'année, déjà tu dépasses le seuil laminaire de gestion de ton corps. Et en plus de quoi, il a jamais de phase où il peut se détoxifier parce qu'il est toujours saturé. Et si en plus tu prends en compte le fait qu'on a de moins en moins de densité nutritionnelle et donc on manque de cofacteurs parce que tous ces principes de détoxification, ils utilisent des acides aminés, des vitamines, des minéraux, et donc si tu as un statut nutritionnel qui est plus bas, naturellement tu vas avoir plus de mal à détoxifier. Donc je pense que le problème, c'est pas tant les oxalates, c'est plus le fait qu'on manque de variété alimentaire, on crée trop de stress. On consomme trop de xénobiotiques, de polluants, etc., ce qui fait que les capacités du corps à les gérer sont surchargées et il manque de briques essentielles pour y arriver. Mais voilà, mais bon, en tout cas, de toute façon, il n'y a pas d'oxalate dans l'huile d'olive, donc la question ne se pose pas vraiment. Et donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment différencier les différents polyphénols qui ont des voies d'action et des bénéfices différents.
La conclusion à tout ça, c'est le bon sens en fait. Hein. Si on mange des épinards, comme tu dis, tous les jours, sans jamais s'arrêter, ou on passe d'une diète végétale à carnivore sans transition, c'est là où il y a une perte de contrôle et on perd le bon sens. Je voulais te parler de l'acidité. On a parlé de ça aussi avec Marion. Est-ce que c'est un caractère qui est important pour toi dans ton cahier des charges, l'acidité de l'huile d'olive?
Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, nous on veut que l'acidité soit inférieure à 0,2%, alors que les normes d'huile d'olive vierge extra sont à 0,8%. Donc on est 4 fois inférieur aux normes classiques. Et donc ouais, bien sûr, c'est vraiment un marqueur de la qualité de l'extraction, donc du pressage et l'extraction de l'huile.
Encore une fois, on compare deux produits qui du coup dans leur composition intrinsèque n'ont quasiment plus rien à voir.
Ouais, et c'est ça qui est marrant, parce que si tu regardes, tu vois, bon, globalement, si tu regardes la répartition, alors on peut pas vraiment. Si tu regardes la répartition des macros déjà, bon, ben dans tous les cas, c'est des lipides, ok. Et même au sein des lipides, si tu regardes, bon, ben, la teneur en acides gras monoinsaturés, donc en oméga 9, etc. Globalement, d'une huile d'olive à l'autre, ça va être un peu différent, tu vois, il y aura plus d'acide oléique dans une huile de meilleure qualité, mais globalement, à quelques pourcentages près, ça sera la même chose. Par contre, quand tu zoomes et que tu regardes vraiment ben, tout l'accompagnement nutritionnel de ces espèces de grosses masses, ben, ça n'a absolument rien à voir.
C'est comme les finitions d'une voiture, il y a les surpiqûres en cuir ou tu as le mauvais siège en plastique, quoi. Mais ça, tu peux pas le voir si tu regardes pas l'intérieur et si tu regardes pas les détails.
Pierre, en plus, il a une voiture tunnel à la maison. Donc...
Ah ouais, là,
exactement.
C'est...
Et, c'est... et on a prévu un autre épisode sur la densité nutritionnelle et notamment la façon dont le mode de production ou d'élevage modifie la teneur en nutriments des aliments. Et donc, on va pouvoir étudier ça parce que c'est hyper intéressant dans le règne végétal, notamment, tu vois, la teneur en carotène, en lipoptène, en vitamines, en minéraux, etc. Enfin, c'est des choses qui ont été pas mal mesurées. Et c'est vraiment absolument passionnant, quoi.
Mais finalement, c'est aussi une ode au bio. Quand on a reçu Anthony Berthoud, il nous parlait simplement le fait d'avoir un produit bio, ça a augmenté considérablement la teneur vitaminique et en antioxydants du produit, qui faisait vraiment une énorme différence versus un produit qui n'était pas bio.
Complètement.
Et vraiment ce stress apporté à la plante qui lui permettait de produire justement ces composés qui sont exceptionnels.
C'est ça. Après, la problématique, c'est que maintenant, t'as du bio de petits maraîchers qui font les choses extrêmement bien et puis t'as du bio industriel de grande surface. Étant donné que le bio, c'est juste un cahier des charges avec une obligation de moyens et pas de résultats, ben, concrètement, les industriels, ils s'en sont emparés, ils arrivent à faire des méga productions et te proposer des produits qui seront peut-être un petit peu meilleurs que des produits issus de cultures en aquaponie, sous serre, etc. Voilà, mais qui restent largement inférieurs à ce que tu auras si tu trouves un petit producteur local près de chez toi.
Mais c'est quand même un garde-fou, tu vois, David. Ça reste un garde-fou pour tout ça.
Oui, c'est, non, j'ai déjà un premier plat. Il y a plusieurs bio. Oui, c'est un premier plat. Mais je pense qu'il faut différencier, tu vois, entre du bio de grande surface ou du pas bio local à côté de chez moi, élevé en plein air, voilà, de mon maraîcher. Je suis pas sûr que le bio de grande surface soit mieux.
Et est-ce que t'as pensé à définir, par exemple, une huile extra, enfin, je sais pas comment la extra polyphénolée.
Est-ce que tu pourrais,
ouais, non, mais tu vois, comment, parce que en fait, t'es mélangé avec le bio, avec d'autres huiles, donc tu te démarques avec ta marque Féroce. Mais est-ce qu'il y aurait pas possibilité de mettre un cahier des charges pour vraiment défendre l'huile d'olive que tu incarnes?
Bah, moi, ce que je dis, c'est que c'est une huile d'olive à haute teneur en polyphénol. On considère qu'une huile d'olive est à haute teneur en polyphénol quand elle dépasse 400 mg par kilo. Nous, donc, comme je le disais, sur la dernière production, on était à 622. Sur celle de cette année, je sais pas à combien on sera. Peut-être qu'on sera voilà, des niveaux semblables, peut-être plus élevés, enfin voilà. Mais donc voilà, donc c'est vraiment ça le critère qui permet de différencier une île classique. Voilà. Après, nous, étant donné qu'on est en direct consommateur, via notre site, on explique tout. On a aussi de l'espace pour faire de la pédagogie, tu vois. La raison pour laquelle il faut des noms, c'est parce que ben, quand tu es en grande surface, tu dois aller vite dans tes choix et puis tu n'as pas le temps de lire 50 explications sur le truc, tu vois. Tandis que nos clients, ben, ils sont sensibles à tout ça et donc ils prennent le temps de s'intéresser à ce qu'on leur propose.
Et dans ton quotidien, comment tu utilises le gras? Est-ce que tu pourrais nous faire un petit focus sur toi, ton utilisation du gras?
Ouais.
Et qu'est-ce que tu nous conseilles d'acheter sur Feros ou ailleurs ou enfin, dis-nous tout.
Eh ben, donc j'utilise le suif de bœuf pour tout ce qui est chaud. Donc j'utilise pour cuire, si je dois cuire des choses à la poêle ou autre, c'est ce que j'utilise, ou des œufs à la poêle, j'utilise le suif de bœuf. Quand je fais des légumes au vitaliseur qui sont chauds, par conséquent, j'utilise le suif de bœuf. Et j'utilise l'huile d'olive à haute teneur en polyphénol pour tout ce qui est cru. Donc tout ce qui est assaisonnement dans les salades, etc. Et puis un truc qui est un peu original auquel tu penserais peut-être pas, mais que je trouve excellent, c'est tu vois les faisselles ou du yaourt, du fromage blanc fermier de bonne qualité évidemment. Et bien je prends genre une faisselle, je mets un pomelo, pomelo c'est ces petits pamplemousses que je coupe dedans, et je rajoute un peu d'huile d'olive, de notre huile d'olive dedans. En fait notre huile d'olive elle est aussi super bonne, tu vois. Et donc t'as même pas besoin de rajouter de sucre ni rien, franchement c'est hyper bon. Tu vois, rien que d'en parler là ça me donne faim. Donc ça vaut le coup, franchement c'est vraiment un bon truc à tester. Donc, voilà, donc c'est très simple. Tout ce qui est cru, huile d'olive, tout ce qui est chaud, plus de bœuf.
Qu'est-ce qui se passe si je mets ton huile d'olive dans la poêle pour faire cuire mes steaks? Parce que tu m'as dit que c'était une super huile d'olive, donc moi j'ai
Ouais,
envie de l'utiliser
elle
partout.
est. Donc il n'y a pas de problème, mais je trouve que c'est dommage parce que elle va perdre en fait tous ses polyphénols. Les polyphénols, ils sont très sensibles à la chaleur et donc le point de fumée de l'huile d'olive est suffisamment élevé pour que il n'y ait pas de composés négatifs entre guillemets qui se forment. Donc sur le plan de la santé et notre premier engagement qui est de pas nuire, tu peux tout à fait l'utiliser. Par contre, utiliser une huile qui coûte je sais pas entre 25 et 30 euros le litre pour perdre la moitié des composés bénéfiques en la faisant cuire, je trouve que c'est dommage. Dans ce cas-là, autant que tes deux huiles d'olive, si tu veux pas utiliser de suif de bœuf et deux huiles d'olive, tu prends une huile d'olive bio classique et puis la nôtre et pour ta cuisson à la poêle, tu mets une classique quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment dommage d'utiliser une huile de cette qualité pour la cuisson.
Et David, ta vision du gras à l'avenir, est-ce que tu as des projets sur d'autres sources de gras? On pourrait penser à la coco, à la noix, comme a parlé Pierre. On a parlé sur d'autres épisodes aussi de la molécule C15.
Ouais.
Est-ce
Alors,
que.
par rapport au C15, donc effectivement, c'est la molécule qui a longévité, qui est à la mode, etc. Bah, il faut savoir qu'on en a pas mal dans notre suif de bœuf. Donc, le suif de bœuf, c'est vraiment une source de C15. Et donc, potentiellement, je te disais que là, à côté de chez moi, j'avais des vaches d'abondance qui mangent de la super herbe de montagne, etc. Donc, j'envisage peut-être de proposer du fromage d'abondance que je trouve très, très intéressant sur le plan de. Enfin, à plein de niveaux, et du beurre cru issu de ces vaches-là aussi. Donc ça, c'est un projet qui est encore très embryonnaire, il me reste encore des tests à faire, etc., notamment en labo, mais voilà, mais c'est un projet qui... Et donc voilà, et ça c'est des sources de C15 qui sont très 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 intéressantes. Donc voilà, après tu me parles de graisse de coco, ça pour le coup c'est complètement en dehors de mon scope parce que on est sur des produits... qui sont importés, qui viennent de je sais pas où, il y a une complexité logistique, je peux pas les vérifier. Enfin, moi j'ai quand même cette volonté de recréer du lien entre la terre et l'assiette. Je vais rencontrer tous mes producteurs, on fait des vidéos de leur ferme, on fait des interviews. Enfin, tu vois, il y a cette logique quand même de production un peu locale. Donc voilà, donc je dis pas que j'en ferai jamais, mais voilà. Et en plus, je vois pas l'intérêt parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des composés particulièrement enfin, qu'on pourrait pas trouver ailleurs dans l'huile de coco. Ça fait des intérêts spécifiques pour les gens qui sont en régime cétogène, mais à part ça, je trouve que autant consommer du suif de bœuf qui est local, etc. Donc voilà, donc ça je vois pas trop, ça m'intéresse pas trop. À date en tout cas. Et après, qu'est-ce qu'on aurait comme autre source de gras? Ben, tu vois, je te parlais de, on travaille sur une filière cochon et donc potentiellement on pourra avoir du sein doux. Donc, qui pourrait être une autre source, une alternative au sucre de bœuf. Même si je pense que le profil d'acide gras sera moins intéressant que sur du cuivre de bœuf. Donc, à voir. Non, c'est à peu près tout.
Tu peux nous expliquer qu'est-ce qui changerait entre du sindou et le suif?
Bah, en fait, rien, ça serait une bonne source de gras aussi, mais le problème, c'est que le porc, de façon naturelle, il a un profil d'acide gras oméga-3, oméga-6, qui est quand même plus riche en oméga-6. Donc, il sera quand même un peu moins bien équilibré que de la graisse de bœuf. Même si nous, dans notre élevage cochon, c'est une première d'ailleurs, entre guillemets, on a des cochons qui sont élevés en plein air, donc ils peuvent avoir des comportements naturels, etc. Et on a remplacé, comme toujours, on ne veut pas de maïs ni de soja, donc on a remplacé le soja par du lactosérum. Donc, toi qui as plein d'auditeurs qui font de la muscu, etc., bah en fait, c'est de la whey. Donc, on file de la whey à nos cochons à la place du soja, qui viennent d'une fromagerie à proximité qui fait du fromage cantal. Voilà, et donc le lactosérum, c'est un sous-produit de la production de cantal qu'on récupère pour donner à manger à nos cochons. Et grâce à ça, bah, étant donné qu'on n'a pas de maïs ni de soja, on a un profil d'acide gras oméga-3, oméga-6, qui sera beaucoup mieux équilibré qu'un cochon conventionnel, mais sur du sindou qui restera à mon avis moins intéressant que du bœuf. Après, étant donné qu'on n'a pas encore là tu vois c'est un donc le cycle d'élevage d'un cochon, disons que ça prend 9 mois à peu près, 8 9 mois, et donc là on a lancé l'élevage maintenant, donc, on n'a pas encore les produits finis, et comme il n'y a pas vraiment d'alternative qui existe, bah, j'ai pas pu tester d'autres cochons pour voir le résultat. Donc peut-être que je serai surpris et qu'en fait je vais créer un produit qui est incroyable. J'essaie de créer un produit qui est incroyable de toute façon, mais voilà, j'ai pas encore l'information parce que on n'a pas encore de cochons qui sont issus de cet élevage, et donc on n'a pas encore pu les tester en labo.
Et d'autres sources comme la graisse de canard ou l'huile de colza qui pourraient être locales, françaises, de haute qualité, est-ce que tu y as pensé?
Bah, huile de colza, pour moi, comme je disais tout à l'heure, les huiles de graines, pour moi, c'est pas une bonne solution. Je pense que de par les
Riche en
procédés
oméga-3.
d'extraction, etc. Ouais, mais riche en oméga-3, tu vois, c'est ce que j'expliquais tout
C'est
à
un
l'heure.
hydrocarbure.
C'est de l'oméga-3 bidon, tu vois, parce que c'est de l'oméga-3 végétal, donc qui est converti à hauteur de 5 ou 10%. Donc, si tu le mets en perspective des oméga-6 que tu as dedans, bah, en fait, le ratio il est pas intéressant. Comme tu disais, tu parlais d'hydrocarbures, bah justement, tu utilises des solvants de l'hexane, etc., pour le faire. Enfin, c'est absolument pas naturel comme procédé d'extraction. Donc, je trouve ça hyper. Enfin, voilà, c'est hyper chimique, quoi. Voilà, et toutes les études un peu que j'ai vues sur le sujet, enfin, il y a quand même des inquiétudes assez importante sur le potentiel inflammatoire des choses. Et quand on sait que l'un des deux enjeux de la longévité, c'est de réduire l'inflammation, voilà, j'évite tout ce qui est huile de graines. Et c'était quoi le truc que tu me demandais? Ah, le canard, bah peut-être, pour l'instant je me suis pas encore intéressé à la filière canard, donc j'ai pas d'informations sur le sujet.
C'est
Mais
vrai
mine de
que
rien, tu vois, avec l'obsession avec laquelle on crée nos produits, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de recherches pour établir les cahiers des charges, etc. Et en plus, il y a plein de contraintes auxquelles tu penserais pas. Tu vois, par exemple, pour nos poules, on voulait qu'elles aillent manger une partie de leur alimentation sur des parcours extérieurs, qu'elles mangent des vers de terre et de l'herbe, etc. Et puis quand j'ai dit ça au technicien, il m'a dit bah oui, mais si on ouvre les portes des bâtiments, bah elles sortent pas forcément parce que c'est des proies, et donc elles ont peur de se faire bouffer, en gros, donc elles restent à proximité des portes. Donc elles vont pas aller explorer le parcours même si tu ouvres les portes. Moi je dis bon bah, et si on diminuait la quantité de nourriture à l'intérieur, peut-être que ça les obligerait à avoir un peu plus de quête à l'extérieur. Il me dit bah oui, mais si tu fais ça, le risque c'est qu'elles commencent à se piquer, donc à s'arracher les plumes. Donc voilà, et donc au final on a eu l'idée d'ajouter des arbres sur les parcours quand même pour essayer de créer des abris naturels et puis les inciter à aller plus dehors. Mais tout ça pour dire que, enfin, il y a plein de contraintes auxquelles toi tu fais ton beau cahier des charges avec ce que t'attends, etc. Depuis ton ordinateur et
Et
tout, mais
puis
t'es pas
il y a la
confronté au
réalité, quoi.
terrain. Puis voilà, il y a la réalité. Et puis quand t'enlèves le maïs et le soja, bah, par exemple sur les poulets, sur du poulet conventionnel et industriel, il a une durée d'élevage de 65 jours. sur du poulet bio label rouge, je crois que tu dois être dans les 85 jours, quelque chose comme ça. Bah, nous, on supprime le maïs et le soja, on se retrouve à devoir faire des cycles de 120 jours. Donc, ça veut dire qu'on doit choisir des souches qui sont plus rustiques. Ça veut dire aussi que bah, la durée d'élevage va être plus longue, donc ça va être plus cher. Enfin, ouais, y a plein de. Enfin, vraiment, c'est complexe, tu vois, de changer les choses. Et je dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais juste pour dire que quand on décide de développer un nouveau produit, ça nous prend beaucoup de temps. En plus, on est sur des cycles vivants. Tu vois, je te disais, le cochon, bah voilà, entre l'idée, le fait d'établir le cahier des charges, le fait de trouver l'éleveur qui accepte de s'engager avec nous sur ce cahier des charges, et puis après le temps d'élevage avant d'avoir les premiers cochons qui sortent, bah, tu es sur des cycles de développement qui prennent un an et demi, tu vois. Et donc les poulets, c'est un peu pareil. Enfin voilà, tu vois. Donc voilà, donc le canard, peut-être on s'y intéressera, mais enfin, voilà, pour l'instant, je ne m'y suis pas encore intéressé. Quand ce sera le cas, ça prend du temps. Et d'ailleurs, en
Ben,
plus, tu vois, je prends des consultants à chaque fois pour m'aider aussi dans cette réflexion. Donc, des agronomes, Sabine Bonneau, par exemple, de Planet Score, qui est Head of Science chez Planet Score, qui m'a aidé sur des sujets. Des nutritionnistes, bah, tu parlais d'Anthony Berthoud, je demande conseil aussi. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, il y a toute une phase aussi de recherche, de réflexion. Donc, c'est ouais, c'est très facile.
et l'utilisation de graines de lin dans cette production, est-ce que ça en fait partie?
Ouais, dans l'élevage de poulains, de poulet, de poulet, effectivement, on rajoute effectivement des graines de lin. Pour les autres, pas. Bah, déjà pour la filière bovine, c'est 100% à l'herbe, donc il n'y a pas besoin. D'ailleurs,
Et
tu vois,
il
il y
en
a,
faudrait beaucoup aussi. C'est
ouais,
facile.
bah, t'en as qui essaient de compenser le fait de mettre du maïs et du soja en rajoutant un peu de lin pour améliorer le ratio oméga-3, mais bon. Là, tu arrives. Enfin, pour moi, tu passes à côté de l'idée, quoi. Et pour le cochon, pas besoin non plus. Pas besoin non plus. Il y en a pas spécialement. Donc, surtout dans le poulet.
Bon bah c'était passionnant, hein. Vous avez tous compris que Féroce c'est à 1000%. David, merci pour tout. On va partir sur un nouvel épisode sur la haute densité nutritionnelle que Féroce et David défendent avec force, avec féroce, j'allais dire. Et puis voilà. Salut à tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao.
Bonne journée.